Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Annie.
Bonsoir Caroline.
Ravie de vous accueillir sur l'antenne d'RTL.
Je suis ravie, moi, de vous parler.
Bon. Eh bien, très bien. De quoi voulez-vous me parler, Annie ?
Moi, je veux vous parler de moi et de mon expérience que je trouve complètement, épuisante, surprenante. Oui. En fait, voilà, il y a 2 ans et demi, j'ai 54 ans, il y a 2 ans et demi, j'ai arrêté la cigarette, le cannabis, et pourquoi pas l'alcool aussi un petit peu, mais j'étais moins grave. Suite à un cancer du poumon, je m'en suis sortie, je suis en rémission. Tout se passe très bien de ce côté-là, ouais. C'est une super nouvelle.
Oui, vous êtes battue avec les médecins.
Ouais.
Ça a été Caroline. 2 ans très compliqués, j'imagine.
2 ans et demi dur. Oui. Dur. Je le dis, c'est une expérience qui est très difficile parce que, en dehors du combat face à l'addiction, il y a le fait de se retrouver soi, le fait de rester soi-même et d'apprendre en fait à vivre avec cette expérience, quoi.
Puis c'est surtout, vous parlez d'addiction, donc que vous aviez, c'est surtout particulièrement difficile finalement de les arrêter au moment où on vous fait un tel diagnostic et où on est particulièrement stressé et où ça peut venir combler entre guillemets cette angoisse, même si vous avez trouvé la force de le faire et ça en valait la peine puisque aujourd'hui vous êtes en rémission.
Oui. Donc, Et Caroline, ce qui motivait mon appel, c'est que face à toute cette expérience et puis cette joie de m'en être sortie, eh bien, je suis toute seule. Dans ma vie. J'ai une famille.
Oui.
Et comme je disais tout à l'heure, la famille, ça reste la famille. Elle a sa fonction, elle a ce qu'elle peut apporter. Mais en dehors de ça, j'ai pas de petite amie, j'ai pas de copain, j'ai pas de copine, je toute seule. Je travaille.
Oui.
Mon travail est alimentaire. Et je suis arrivée à un stade où je supporte plus cette situation. J'ai écarté toutes les connaissances que j'avais parce que tout tournait autour du cannabis, de la cigarette, de l'alcool, des drogues dures, tout ça. Mmh. Donc moi, arrêter, c'était arrêter d'avoir ce genre de relation. Je regrette rien.
Ça vous a privé de ce cercle alors dont à un moment, pour sortir de l'addiction, il fallait aussi vous couper de ces personnes, mais du coup, c'est au prix d'une solitude.
Oh, c'est impressionnant. Je me demande. C'est impressionnant dans le sens où je me dis, mais comment j'ai fait pour tenir 2 ans et demi toute seule ?
Oui. Comment avez-vous fait ? Oui.
Alors, je pense que j'ai supporté parce que j'étais tellement concentrée sur m'en sortir, rester moi-même. J'étais tellement concentrée là-dessus que j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas vu cette solitude s'installer petit à petit. Et là, je la reçois comme un espèce de boomerang.
Oui.
Et c'est quelque chose de violent. Et c'est d'autant plus violent que j'ai le sentiment que seule, je n'arriverai pas à me sortir de cette situation.
Mais ce que vous me dites, ce sentiment de solitude. Semble-t-il, beaucoup l'éprouvent après avoir lutté contre une maladie grave où, comme vous dites, vous étiez tout entière plongée dans ce combat où toute votre vie était organisée aussi autour de vos rendez-vous médicaux, il y avait toute une équipe autour de vous.
Oui.
Et quand ça s'arrête, même si il y a cette immense joie d'être en rémission, il y a aussi un vide, parfois. C'est-à-dire, au fond, cette bataille que vous avez menée, vous vous retrouvez là face à vous-même. Et ce vide, il est d'autant plus important que derrière, il y avait aussi cette problématique d'addiction.
Oui.
Et que souvent, enfin, majoritairement, Dans les addictions, on retrouve un peu cette problématique du vide, du manque.
Oui.
Du manque affectif.
Je vois ce que vous voulez dire, oui.
Et où beaucoup, vous savez, des personnes qui rentrent parfois en cure de désintoxication pour l'alcool, pour arrêter, pour se sevrer de l'alcool, disent qu'il y a une période qui est très difficile, c'est le retour dans la vie, où souvent, comme vous, eh bien, ils sont obligés de faire un tri dans leur relation,
oui,
parce que sinon, leur relation, ça va les faire replonger. Et donc, il y a toute une vie à réaménager et de nouvelles relations à créer. Et qu'il faut un peu de temps pour cela.
Du temps, Caroline, mais vous ne pensez pas que 2 ans et demi, ça fait du temps?
Alors, 2 ans et demi, si j'ai bien compris, c'est 2 ans et demi où vous avez lutté,
ouais,
contre la maladie.
Ouais.
Hein,
ouais.
Ce n'est pas du temps perdu, puisqu'aujourd'hui, vous êtes en rémission, Annie. Mais ouais, à ce moment-là, vous étiez tellement concentré sur cet objectif, sur la, vous avez la pudeur, vous n'en parlez pas, mais la dureté quand même des traitements, la fatigue,
oui,
la chimio, tout la ça. Chimio, les, ouais, donc les rendez-vous qui s'enchaînent, la fatigue, les où finalement le, c'était ne pas perdre trop d'énergie, ne pas perdre trop de force pour pouvoir continuer la bataille. Et aujourd'hui, oui, que vous pouvez souffler parce que vous êtes en rémission, ben vous vous retrouvez face à vous-même, à votre vie, et vous constatez cette solitude qui est autour de vous. Cette solitude que finalement vous avez comblée aussi, peut-être, à coup d'addiction. Et c'est là où vous avez besoin, à mon avis, aujourd'hui, d'être aidé autrement et d'être entouré psychologiquement. Parce que ces addictions dont vous me parlez, depuis combien de temps étiez-vous là-dedans ?
J'ai 54 ans,
oui,
et j'ai fumé mon premier joint à 18 ans.
D'accord.
18 ans.
Pour, ouais. Mais vous consommiez beaucoup de cannabis ?
Oui, j'étais arrivée à un stade où je fumais même la nuit. Hein.
D'accord.
Je me levais la nuit, je fumais la nuit.
Oui.
Je pouvais pas aller travailler sans avoir fumé 2-3 joints à la fin, quoi.
Oui. Oui.
Et
plus, oui, vous dites, il y avait de l'alcool aussi, un peu.
Un petit peu.
D'accord.
Ouais, un petit peu. Mm-hmm. C'était surtout fumer tout ce que je pouvais trouver. Il fallait que je le fume.
Oui.
J'avais touché un petit peu à la cocaïne aussi.
Oui.
Je rentrais petit à petit, mais sûrement dans cette dépendance, quoi. Mmh. Mmh.
Mais on voit de plus en plus aujourd'hui, les personnes dépendantes sont dépendantes à plusieurs substances.
Oui, Caroline, il y a une, on s'enfonce dans quelque chose de, on cherche des sensations toujours de plus en plus fortes. Mmh. C'est ça la dépendance. Mmh. Et autant un joint, ça suffit au début, après c'est 2, après c'est 3, après c'est plein. Mmh. Et quand le plein, on ne trouve plus de satisfaction, on s'oriente vers certains la cocaïne,
et oui,
d'autres je suppose l'héroïne. Mmh. Mmh. Mais le schéma est le même pour tout le monde. Mmh. Celui qui me dit, c'est pas vrai moi, je me contente de fumer, j'y crois pas. Je dis ça par expérience, Caroline. Mmh.
Ben, le risque, comme vous dites, c'est finalement, il en faut davantage pour à nouveau éprouver, il faut davantage, toujours plus de sensations.
Oui.
Finalement. Et en même temps, pour éprouver ou pour ne plus ressentir l'angoisse, le,
oui,
c'est-à-dire un peu s'anesthésier aussi.
Oui, c'est ça, Caroline. Je suis quelqu'un de particulièrement angoissée,
oui,
anxieuse,
oui,
sensible aussi.
Et oui. Ouais. Donc,
et je, en vous parlant, je prends conscience que je me demande si je suis pas en plus timide. Timide. Mmh. La cigarette, le cannabis, ça me désinhibait.
Oui.
J'avais beaucoup de relations avec les autres.
Oui.
Même les gens qui fumaient pas, j'arrivais à avoir des relations avec eux.
Mmh.
Et le fait de ne plus fumer, ça, je me suis re-inhibée.
Oui, oui.
réinhibée et je m'aperçois qu'en fait je suis, comme je viens de vous le dire, timide, pas sûre de moi, peut-être un manque de confiance aussi en moi qui fait que je ne vais pas vers les autres.
Oui, 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 mais
je
c'est important.
Confiance.
Oui, c'est important ce que vous dites. Parce qu'avec ces substances-là, vous vous sentez plus forte.
Ouais. Ouais, oui, c'est ça.
C'est plus facile d'aller vers les autres.
Oui. Oui. Mais je me permets, puisque je me permets, ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas de relation intime avec un garçon, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de garçons qui ne viennent pas vers moi.
Oui.
Ce n'est pas ça. Mais je leur trouve tous les défauts du monde. Et est-ce que ce n'est pas une raison pour... Enfin, est-ce que ce n'est pas un moyen pour me rester dans mon truc, ne pas... C'est comme si j'avais peur, quoi.
Oui.
Je suis au cœur de ma personne. Et je m'aperçois que ça se résume à tout ce que je viens de... timidité, repli sur soi. Pourquoi, j'en sais rien. Je suis en thérapie, Caroline. Je suis en thérapie depuis une bonne quinzaine d'années.
D'accord.
C'est pas rien. Hein.
Non. Mais c'est ça peut être... je sais qu'aujourd'hui, j'imagine, peut-être des personnes chez elles, ils se croient, 15 ans de thérapie. On est dans une époque où il faut que tout aille vite. Et même les thérapies. C'est pour ça que d'ailleurs les thérapies brèves ont bonne presse. Et pourquoi pas ? Parce que l'important, c'est d'aller mieux. Mais vous savez, quand on a ce mal-être diffus, au fond, c'est ça, c'est quelque chose de diffus. Une peur, une timidité, des angoisses, une inhibition, une fragilité. Il n'y a pas une méthode qui, d'un coup de baguette magique, va vous enlever tout ça. Et c'est vrai que ça prend du temps. Mais qu'après tout, c'est un espace aussi pour essayer de finalement, vous le dites, sortant, une fois que vous avez arrêté de consommer, et déjà bravo d'avoir trouvé la force de le faire.
Merci.
On se retrouve face à soi-même, et c'est là où il y a un risque de parce qu'on peut se retrouver avec un peu un sentiment de vide. De vie intérieure.
Quand on est fragile, c'est pas facile à gérer, je vous assure.
Ben non.
Vous avez raison. Je suis obligée de me regarder et je vois quelqu'un d'extrêmement fragile. Et cette fragilité me fait peur. J'ai 15 ans de thérapie, comme vous dites, ça va très lentement. Et j'ai juste conscience aujourd'hui d'être quelqu'un d'extrêmement fragile. Extrêmement, c'est peut-être un peu exagéré, mais de très fragile.
Ben... Oui, vous avez des fragilités,
mais
en même temps, oui, mais vous avez vu ce que vous avez fait pour quelqu'un de fragile, Annie. Enfin, au fond, vous me dites que vous avez fait face à cette maladie seule. Vous étiez seule aussi pendant la maladie.
Oui, je l'ai géré seule. C'était pour moi. C'était pas une. Pour moi, c'était la condition de réussir.
Donc vous vous êtes appuyé sur vous-même. Vous vous êtes dit, je peux me faire confiance et je vais réussir, je vais y arriver. Là, vous n'avez pas douté de vous.
Non, j'étais dans l'action.
Voilà, c'est ça, vous étiez dans l'action. Et peut-être qu'à un moment, l'action est le meilleur remède contre l'angoisse.
Oui, Caroline, ça par expérience, je peux vous assurer
évidemment.
Que pendant 2 ans, j'ai pas eu le temps d'angoisser.
Mais évidemment. Et c'est pas quand on est dans des... finalement, on voit des personnes qui peuvent être d'un naturel, d'une nature assez anxieuse, assez angoissée, quand il leur tombe des épreuves, et c'en est une, c'est pas là où elles sont le plus angoissées. Parce que comme vous dites, là, on est tout engagé dans l'action.
Oui.
Combattre, se soigner. Et c'est pour ça que dans cette période-là aussi que nous vivons, où beaucoup de gens se retrouvent isolés, mais finalement parfois privés de leur travail, avec du temps devant soi, finalement dans une oisiveté qu'ils n'ont pas désirée, il n'y a rien de pire pour l'angoisse. C'est pas étonnant que ça explose en ce moment, l'anxiété et l'angoisse.
Oui. Cette période de Covid, oui. La solitude, c'est... L'oisiveté, et la, on dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices, mais pas dans les.
C'est vrai? Oui, non, mais ouais, c'est ouais. Dans le sens où, à un moment, on se met à penser, et vous l'avez dit vous-même, vous n'aviez pas le temps de penser, vous étiez dans l'action. Et là, à nouveau, mais il a quand même. Vous avez trouvé la force, parce qu'il vous en a fallu un moment. Oui. D'arrêter toutes ces addictions. Là où, malheureusement, alors certains diraient, bah oui, mais on vous diagnostique un cancer des poumons. Mais il y a des personnes qui, même avec un cancer des poumons, ne peuvent pas arrêter parce qu'elles sont trop mal et elles ont besoin de se raccrocher.
Je les ai rencontrées, Caroline. Moi, je les ai vues, j'ai parlé avec elles. Et elles continuaient malgré ce qui s'était passé.
Ben oui. Parce que c'est comme un anxiolytique au fond, c'est comme c'est au moment où elles apprennent une nouvelle catastrophique, elles peuvent pas se priver en plus de ce qui les aide à tenir au fond. Donc vous avez, et c'est pour ça que oui, vous avez des fragilités, mais vous n'êtes pas faite que de cela, Annie. Parce que il faut quand même, c'est pas rien d'avoir arrêté tout à ce moment-là. Et ça montre à quel point il y a chez vous une pulsion de vie qui est extrêmement forte.
Oui, je suis d'accord avec vous, Caroline. Ce que je trouve terrible, c'est que pour tout ce qui est épreuve, travail, études, tout ça, je suis mais. J'ai une force dont je suis consciente maintenant et que j'arrive à assumer. Mais de l'autre côté, il y a une espèce de petite fille qui a tout le temps peur, qui a peur en fait. Voilà. Comment je me résumerais?
Et cette peur, j'imagine que vous l'avez un peu approchée dans toutes ces années. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur?
Je sais pas, Caroline. Malgré 15 ans de thérapie, vous me posez une très très bonne question.
Et vous me parliez de votre famille, vous dites, vous avez dit on a la famille, bon, c'était un peu, bon ben, c'est la famille quoi. C'est, mais vous m'avez pas dit grand chose au fond de ça, de cette famille qui, si je comprends bien, dans l'épreuve n'a pas été soutenante pour vous.
Si, Caroline, vous parle honnêtement. Si, bon. Ils ont été très soutenants à leur façon, avec ce qu'ils étaient, avec l'angoisse que ça a provoqué chez eux.
Oui, ils ont été là pour vous.
Mais ils ont été là.
Vos parents
Mes parents, oui. Mmh. Oui.
La peur que vous éprouvez, que vous ressentez parfois, qui envahit tout, et du coup que vous anesthésiez à coups de substances, vous l'avez toujours éprouvée ou c'est arrivé à un moment dans votre vie Vous dites que vous avez commencé à fumer à 18 ans.
Non, Caroline, quand j'avais 10 ans, 11 ans, j'avais fait une tentative de suicide. C'est rare chez les enfants.
Hein. Oui, c'est rare, heureusement.
Heureusement, oui, comme vous dites.
Qu'est-ce qui était à l'origine de cela? Qu'est-ce qui avait provoqué cela?
Un ras-le-bol, je m'en rappelle. C'était
un ras-le-bol de quoi?
Ben, du climat familial, ma mère était elle-même très angoissée, elle criait beaucoup, elle se fâchait beaucoup, elle me tapait aussi. Donc, c'était ça que je supportais plus, quoi.
Et cette tentative de suicide, est-ce qu'elle est passée inaperçue ou est-ce que...
Non, je ne sais pas par quel miracle. J'en ai parlé à mon père. Je lui ai dit, papa, j'ai pris des médicaments. Et de suite, il m'a amené à l'hosto. Ils m'ont fait un lavage d'estomac. Mais ils ne m'ont pas orienté vers un psy. À l'époque, c'était pas.
Oui, à l'époque, c'est pourtant pas si vieux. Vous avez 54 ans. Mais. Or, quand on voit arriver... Oui, ils ont pu penser que vous les aviez ingérés par inadvertance.
Peut-être, je ne sais pas.
Mais qu'on n'a pas forcément en tête qu'un enfant de cet âge-là peut avoir des idées suicidaires. Et ça existe. Ça existe.
Si, ça existe.
Et c'est toujours à prendre très au sérieux. Oui,
oui, oui, oui.
Alors, heureusement, c'est rare, mais ça existe. Et chez un enfant, ça peut basculer très vite. Alors, pas chez n'importe quel enfant, mais ça peut parfois partir, vous dites, un ras-le-bol. Ça peut être, et ça ne survient pas, je ne veux pas affoler les parents qui écoutent, parce que sans raison, j'allais dire, pour un enfant qui déjà ne va pas bien, Et il y a toujours des raisons à cela, familiales, le plus souvent. Une mauvaise note, un reproche d'un enseignant, oui, d'un parent, peut faire basculer, oui, quelque chose qui est déjà là et peut faire basculer. Alors, chez un enfant qui évolue dans un, qui est mieux structuré dans un environnement familial, plus, où il y a de, comment dire, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité, ne, oui, va pas basculer comme ça. Donc, déjà là, il y avait un climat familial pesant, il y avait où on ne vous entendait pas et où malheureusement on vous a fait un lavage d'estomac, mais vous êtes reparti dans cette famille.
Oui.
Où finalement il y avait beaucoup de, déjà de cris, de tensions.
Oui.
Et la peur chez
alors,
vous.
Alors, je pense que, oui, je suis en train de prendre conscience que cette peur, elle date depuis que je suis petite, quoi. Ce climat insécure que j'ai dû inconsciemment garder dans ma tête, quoi.
Mais ce qui m'étonne, c'est que vous me dites que vous en prenez conscience là. Or vous me dites que vous avez 15 ans de thérapie derrière vous. J'imagine qu'en thérapie, vous avez dû l'aborder, l'enfance. Non. On y revient toujours. Pourquoi?
Oui, je l'ai abordé. Mais... parce que j'ai un trouble psychiatrique sur lequel j'ai travaillé pendant toutes ces années. Mmh. Toutes ces années, donc, ça m'a permis, ce travail m'a permis de savoir, de connaître bien mes troubles, de pouvoir mettre des mots dessus, mmh, de pouvoir suivre un traitement,
d'accord,
de pouvoir apprendre à vivre avec,
oui, aujourd'hui, oui,
apprendre à vivre avec, à l'accepter, à l'assumer, et surtout d'apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, malgré ça, je travaille.
Vous souffrez de troubles bipolaires ?
Non.
Non.
Non, j'ai du mal à en parler.
Eh ben alors, non, vous n'êtes pas obligé d'en parler.
Je ne suis pas obligée.
Non, bien sûr que non. Non, non, et surtout pas publiquement. Donc,
voilà. C'est un trouble qui est assez, qui n'est pas anodin.
Oui,
qui,
oui, vous n'êtes pas... Donc ça, vous êtes suivi par un médecin psychiatre ?
Oui.
D'accord. Donc, au fond, tout le travail aussi, c'est-à-dire c'est d'être arrivé à une forme de stabilité. Alors, oui, on sait que aussi dans certains troubles psychiatriques, oui, l'addiction vient justement apaiser.
Ensemble.
Enfin, oui, ça va ensemble, bien sûr, oui, pour apaiser les angoisses.
C'est ça, Caroline. Hein, c'est ça.
Le problème, comme vous dites, c'est que il en faut toujours plus. Et que c'est sans fin. Donc après, votre médecin doit essayer par un traitement de faire en sorte que ces angoisses vous submergent moins.
C'est ça. Et 15 ans, ça a été un travail de tout ça.
Oui, oui.
Tout ça.
Mais vous rendez compte le travail que vous avez fait, parce que entre ce travail sur vous-même pour arriver aujourd'hui au fond à un état de stabilité,
ouais,
trouvé, bon,
où je suis bien,
où vous
fait,
êtes bien dans votre,
ouais,
vie. Ces, ouais, 2 ans et demi de lutte contre le cancer.
Oui.
Franchement, alors, je ne vais pas vous dire, oui, vous avez des fragilités, et des fragilités même donc d'ordre psy, et,
oui,
mais vous avez aussi beaucoup de ressources. Parce que une fois qu'on a, je comprends mieux ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'à un moment tout le travail a été de vous stabiliser.
Oui.
Aujourd'hui, il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire vu que vous êtes mieux, vous avez acquis une forme, une certaine stabilité, solidité, c'est de travailler sur finalement, au fond, votre vie et comment un peu sortir de la solitude. Ce n'est pas le meilleur moment actuellement, puisque ce que nous vivons entre le couvre-feu, les confinements, dans certains endroits des week-ends, et bon, ce n'est pas le meilleur moment pour la rencontre.
Non.
Mais on va en sortir. Et finalement,
oui,
là, vous pouvez vous préparer. Quand on va pouvoir aller vers l'été, vers voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous créer de nouveaux liens, parce que c'est toujours possible. Parce que ce que vous me décrivez n'est pas non plus comment dire un obstacle, parce que entre celle que vous étiez, celle que vous êtes devenue aujourd'hui, ben il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Trop de choses.
Alors. Oui et non, parce qu'il y a des choses aussi dans le bon sens. Oui. Il y a Stéphane qui vous comprend très bien, qui dit « Lorsque j'ai arrêté la drogue et l'alcool, j'ai perdu tous mes soi-disant amis, comme si nous étions dans des couloirs parallèles. » Mais il ajoute qu'il a retrouvé une femme, il a trouvé une femme qui est devenue la sienne, et c'est une autre vie. Et il dit « J'avais comme vous 17 ans lorsque j'ai fumé mon premier pétard, j'ai tout arrêté il y a 9 ans. J'ai traversé une période de désert affectif pendant 5 ans, mais aujourd'hui, ça va mieux. » Il y a quelqu'un aussi qui dit fragile, timide, dites-vous. Quand on vous écoute, ça donne une toute autre impression lorsqu'on vous entend. En tout cas, cette personne ajoute, j'espère qu'Annie sortira très vite de sa solitude. Je vois Paul aussi qui veut réagir et certainement lire des messages qui sont arrivés pour vous, Annie, notre page Facebook, RTL-Parlons-Nous.
Ah ben, si je devais réagir, moi, je dirais la même chose que les auditeurs. Michel, par exemple, qui dit « Moi, je trouve que Annie a au contraire beaucoup de force et l'amour arrivera, vous inquiétez pas. » Liliane qui dit « Quelle force pour quelqu'un qui se dit fragile, dites-moi. » Jacques aussi qui vous félicite, vous semblez avoir déjà retrouvé une certaine quiétude. Conservez votre sérénité et les belles rencontres arriveront sans chercher. Courage pour la suite. Moon qui, pareil, qui vous trouve que pas du tout fragile, mais très très forte. Combattre une telle maladie, mettre fin à toutes ses addictions en 2 ans et demi, il faut être forte. Tenace, en vouloir, je lui tire mon chapeau à Annie. Félicitations. Emmanuel. Et moi, je suis pareil, je suis sorti d'alcool, j'ai quitté des personnes avec qui je m'alcoolisais et maintenant, c'est vrai, je suis seul. Les addictions sont très difficiles. Tu es très courageuse, Annie, termine Emmanuel. Il y a Radouane qui vous conseille de vous investir dans une association éventuellement pour faire un sport dans un club. Ça peut nouer des nouveaux contacts. Et c'est ce que confirme Anne au 09 69 39 10 11. Elle a appelé. Elle ne souhaitait pas passer à l'antenne. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Elle dit, moi, j'ai vécu plus ou moins la même chose qu'Annie et je me suis retrouvée toute seule. Et pour arrêter d'être seule, je me suis lancée dans le bénévolat.
Voilà. Oui, j'ai des pistes. Merci à tout le monde.
C'est ça, ça peut être vous investir dans une association, c'est-à-dire à la fois une association qui où la cause vous paraît juste, vous donne envie de vous investir. Ça permet au fond d'avoir un objectif, de se sentir utile et aussi évidemment de faire des liens et des liens qui sont facilités par finalement cet objectif commun. Et ça peut être à travers une activité, quelqu'un parlait de sport, ça peut être une activité sportive, culturelle, c'est pareil, en ce moment c'est pas simple, mais souvent on est moins timide quand il y a quelque chose qui nous rassemble au fond, qui nous réunit. Vous voyez, on peut commencer à se rapprocher.
Je me sens prête. Vous savez ce qui me fait dire que je me sens prête?
Oui. Non, dites-moi.
Vous allez être mort de rire. Je suis amoureuse de mon. J'ai déclenché des sentiments amoureux envers mon psy. Et je sais que c'est un transfert, mais je sais aussi que c'est une étape que je dois dépasser et qui me fait dire que je suis prête à rencontrer quelqu'un.
Oui.
Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est clair ce que je dis?
Non, c'est-à-dire que dans cet espace sécurisé, sécurisant, où le psy, vous avez raison de dire, c'est-à-dire qu'au fond, représente, il a été là, au fond, il ne vous lâche pas.
Non.
Et il vous a accompagné aussi pendant ces 2 ans
génial.
Et demi. Vous savez qu'avec lui, vous pouvez avoir un lien d'attachement sans être en danger. Donc c'est ce qu'il y a, ce transfert amoureux. Mais c'est très juste de dire que si vous êtes à même de faire ce transfert-là, c'est qu'au fond, dans la vraie vie, vous vous sentez peut-être prête à nouveau pour pouvoir créer un lien d'attachement sans être insécurisée.
J'ai envie de dire que prête, ça me paraît un peu fort, mais qu'il y a quelque chose qui se déclenche
c'est
dans
ça,
ce sens-là.
C'est ça,
voilà.
Oui, je vous rejoins.
Voilà. On est d'accord.
Et vous faites apparemment un bon travail parce que c'est vrai qu'on vous sent, malgré tout ce que vous avez traversé, il y a quelqu'un à parler de quiétude, vous en parlez de façon paisible. Il y a Quentin qui dit « Je vous donne aussi tout mon respect pour avoir vaincu seul vos addictions. » Quentin qui dit « Je connais moi aussi bien ce problème. » Un dernier mot peut-être, Paul
Rapidement, Myriam qui dit « Moi j'adore ce que dit Annie, c'est limpide, ça peut aider du monde d'entendre ce que vous exprimez. Vous avez maintenant accès à toutes ces ressources intérieures qui vont très certainement vous permettre de belles rencontres, de belles choses. Et cet amour, elle espère vraiment pour vous. » Et il y a Radouane pour terminer, qui dit bah, « Moi, ça m'est arrivé avec mon infirmière addictologue. Quand j'ai arrêté de fumer, je suis tombé amoureux d'elle. » Voilà, c'est très marrant, ça m'a fait la même chose.
Voilà, on remplace une addiction par une autre. C'est-à-dire, mais c'est bien, c'est que finalement, on ne s'anesthésie plus, on ose finalement, on prend toujours un risque quand on aime. Oui. Y a Cathy qui dit bravo à vous. À l'avenir, peut-être avez-vous des centres d'intérêt, une passion artistique, par exemple.
Tout à fait.
Donc, préparez, voir dans votre ville où vous pouvez trouver des lieux pour.
Oui, vous avez raison.
Pour l'exercer, c'est Cathy qui vous propose ça et qui ajoute attention au transfert quand même, parce que ça peut faire souffrir. Il est important que vous en parliez avec votre psy.
Je lui en ai parlé.
Parce que souvent, quand on est amoureux de son psy, on n'ose pas lui dire. Alors que justement, si, il faut lui dire.
Vous savez ce que j'ai fait, Caroline ? J'étais chez moi, quand j'ai pris conscience que ça prenait des proportions presque inhumaines, je l'ai appelé, je lui ai laissé un message. Et quand je l'ai revu, il m'a dit « J'ai bien eu votre message ». Alors je lui ai dit « Docteur, je suis bien consciente que c'est un transfert que je fais et que le fait de vous en avoir parlé, ça m'a permis de prendre du recul. Oui. Mais ce que je ne savais pas quand je lui ai dit ça, c'est que ça allait repartir. Mais bon.
Oui, mais vous allez pouvoir le travailler avec lui. Et c'est bien de pouvoir en parler avec lui. Parce que vous allez voir au fond à qui s'adresse véritablement cette demande d'amour. Il y a Bianca qui dit la lecture, Annie. Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. C'est vrai que la lecture, c'est un merveilleux moyen d'évasion. Mais quand on est parfois très anxieux, ou un peu déprimé, ce qui ne semble pas être votre cas du tout, on a du mal à se concentrer. Ça peut arriver aussi et ça revient. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de vous, d'avoir partagé ce parcours et franchement beaucoup de messages d'admiration de la part des auditeurs et je vais tout à fait dans leur sens parce qu'il en faut aussi de la force pour avoir traversé tout ce que vous avez traversé et une envie de vivre très forte.
Merci.
Je vous embrasse,
c'est
Annie.
C'est encourageant.
Je vous embrasse.
Bonne soirée,
prenez
Caroline.
Soin de
bonne
vous.
Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir, Annie.